Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Je vous souhaite évidemment un bon week-end. Vous allez peut-être bientôt reprendre le chemin du travail, peut-être rentrez-vous de vacances. Faites très attention sur la route, on est là pour vous accompagner. Passez un très bon petit déjeuner, rassurez-vous. Lâchez le volant, on s'occupe de tout. Enfin, tenez-le quand même, le volant. Au sommaire, aujourd'hui, c'est fini pour le Paris Saint-Germain qui ne terminera pas la saison invaincue, battu hier soir à domicile face à Nice. À quelques jours de sa demi-finale allée de la Ligue des Champions, le timing est-il catastrophique? On se posera la question. C'est toujours le flou autour du Stade de France en attendant la procédure de concession par l'État. Nos équipes de France de foot, de rugby vont aller voir ailleurs. Le Stade de France est-il indispensable au bloc? Quel est votre sentiment? Les GG, ce sera le bras de fer. Et puis 11h, la polémique enfle en Espagne avant le Classico ce soir en finale de la Coupe du Roi, entre les larmes d'un des arbitres, la colère du Real qui veut justement changer ses arbitres. Les Madrilènes, le Real Madrid, est-il devenu fou? On se posera la question. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente, c'est de circonstance une grande gueule qui, comme le conclave, ça va encore être interminable. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Bonjour, bonjour. Je vais vous apprendre une petite chanson ce matin. Nice à la belle, la view belle, plus belle, la si, la la. Moi, je n'ai plus les paroles en tête, mais.
C'est pas grave, on l'a bien compris.
Vous avez compris, mais vous en retournez derrière.
Faire supporter de l'OGC Nice, Jean-Michel, à peu près. Christophe Cessieux. Non, mais alors, c'est
j'ai perdu
un.
C'est,
oh là là, voilà.
Non, je ne l'ai pas.
Dommage,
porteur.
Ce n'est pas de la télé, je le regrette. Hein. J'espère qu'un jour, les grandes gueules du sport passeront en télé, parce que là, Christophe s'éloigne du micro pour essayer de regarder son écran d'ordinateur. Il vient d'avoir 60 ans et on sent que ça pèse dans les guibolles un petit peu.
J'ai plus parlé de Nissart depuis très longtemps, donc j'ai tout oublié. C'est une catastrophe.
Très bien.
Mais je vais quand même la retrouver et vous allez
tu,
la chanter.
Tu vas réussir à
vous allez la chanter.
Tranquillement.
Hola, mio bella Nissa, Regina degli flu, li tuve itolissa, you canterai toujours. Etc. Voilà.
Oui, on a bien compris. Merci beaucoup, Christophe. Bah,
je vous en prie.
Très belle introduction.
Je peux chanter comme ça toutes les semaines maintenant.
Oh,
si vous voulez.
Grand plaisir. On va parler de Nice dans quelques instants. Une grande gueule qui, contrairement au conclave, avec lui, il y avait rarement de troisième ou de quatrième tour. Julien Beneteau. Salut, Julien.
Je sais pas quoi répondre.
Bonjour.
Ouais, bonjour.
Mais ligne droite.
Non,
c'est le tennis quand même. On est gentleman. Il y a peut-être un autre qui va m'en mettre une dans quelques instants. Je vais vous le présenter. Mais ça va, mon jus?
Oui, très bien. Content d'être de retour.
Ah oui, 60 ans alors, Christophe. Qu'est-ce que ça fait? C'est notre père
impeccable. À tous. Ouais, ouais. Et moi, j'espère être comme Christophe à 60 ans.
Ah, moi aussi.
Ouais.
Moi aussi, de faire la fête comme lui aussi à 60 ans.
Il a raison.
Tous les soirs. Hein.
Mais regarde, ça conserve.
Ah, oui, ça conserve, mais à un moment donné, ça va basculer. Une grande gueule qui, comme le conclave, elle a connu plus de fumée noire que de fumée blanche. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Salut à tous. Ça veut dire quoi, la fumée noire?
Un peu de colère, un peu de défaite, et puis la fumée blanche, ça veut dire un peu de victoire.
Ah, ok. D'accord.
Oui, c'est vrai qu'il y en a eu peu, mais il y en a eu quand même.
Mais il y en a eu.
Il y en a eu quand même. Il y en a eu quand même.
Il y en a plus d'un côté que de l'autre, mais il y en a eu quand même.
Ouais, c'est possible.
Ça va, ma Sarah?
Écoute, très bien. Très, ouais. Très bien.
On est ravis de te retrouver. Tu seras demain avec nous, hein, pour une émission spéciale dopage. Je vous en parlerai pendant cette émission.
C'est un sujet super important.
Ça va être extraordinaire. Et puis, une grande gueule qui, comme le dernier conclave, bah, il a déjà oublié, parce que c'est un rugbyman. Cédric Aymon, salut.
Oh, je sais plus comment. C'est Cédric, c'est ça.
Ouais. Cédric, ouais.
Bonjour à tous, ravi d'être là. Ouais, c'est les troubles de la mémoire. Voilà.
C'est dans l'air du temps, on va dire.
Bon, exactement.
Ça, Cédric, t'es heureux d'être avec les GG. Tu connais bien Julien Beneteau.
Exactement.
Vous avez dans une autre, dans un autre média. Exactement. Sarah Pitkowski, championne de tennis, évidemment. Et puis Christophe Cessieux, qui est en train de réparer son ordinateur.
Mais qu'est-ce que tu fais, Christophe? Mais niçois, a priori. Ouais, hein.
A priori. Alors, je vais pas chanter parce que j'ai vu les dégâts que ça pouvait faire après.
Oui, puis si tu pouvais nous laisser le temps un peu clément au-dessus de Paris, ce serait sympa.
Comment ça, je ne pas bien, peut-être.
Qu'est-ce que tu fais, Christophe? Non, pardon, je suis désolé, on doit commencer cette émission, mais là, t'étais devenu bricoleur d'ordinateur, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là? Il perd la tête, il perd la boule.
Non, j'ai oublié mon fil là-haut.
Bon, ok, on va régler ça, les copains, les problèmes de Papy Cessieux, vous inquiétez pas. On va débuter le premier débat. Juste vous dire que cette semaine sur RMC, c'est le coffre RMC Gold qui va vous permettre de gagner 10 000 euros pour jouer. Il y aura un blind test dans cette émission sur la playlist RMC Gold. C'est notre nouvelle radio, évidemment. Restez bien à l'écoute. écoute, on va vous faire gagner 10 000 euros. On va débuter avec cette citation de Jean Van Damme, et pas Jean-Claude Van Damme, rien à voir, qui a dit un jour, aucun homme n'est invincible, il y a toujours un point faible, le tout c'est de le trouver.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Et Paris puni sur un contre niçois. Buanani décale Morgan Sanson. La frappe à ras de terre au sol sous le ventre du gardien italien. 36 minutes 1-0 pour le GC Nice. Les Niçois attaquent quand même avec Buanani sur le côté droit pour Jonathan Clos-Ancien Marseillais qui va centrer. Oh quel but! Le deuxième but de Morgan Sanson. La reprise acrobatique au niveau des 6-50. Va le tirer au deuxième poteau. Il y a une tête niçoise et c'est la légende Ndaye Chimiye. Il a sauvé 5 ballons sur sa ligne. Il vient mettre le troisième but niçois. C'est terminé. Voilà, c'est fini, c'est la fin. Le Paris Saint-Germain ne sera pas invincible en Ligue 1 en 2024-2025. Ces Parisiens tombent au plus mauvais des moments, à 4 jours de la demi-finale à la Ligue des Champions Arsenal.
Le vœu de Luis Enrique a en partie été exaucé. Écoutez bien, c'était jeudi en conférence de presse avant le match.
Les records, ce n'est pas notre objectif. Le premier objectif, c'est de gagner des titres. L'important, ce sont les trophées. C'est ce qui te fait rentrer dans l'histoire. Si on m'assure que je perds contre Nice et que je vais en finale de Ligue des Champions, je signe immédiatement et sans aucun doute.
Bon, bah, vous l'avez entendu, une partie du contrat a donc déjà été respectée. Le PSG s'est incliné hier pour la première fois de la saison en Ligue 1 après 30 journées d'invincibilité. Forcément un événement dans notre championnat, qui plus est à quelques jours de cette demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Arsenal. Paris n'a gagné qu'un match sur les 4 derniers, preuve d'une certaine fragilité, pardonnez-moi, avant ce grand rendez-vous. La musique qui fout les jetons. Et cette question, la première défaite de Paris en Ligue 1, le timing est-il catastrophique? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Sarah Pitkowski.
Ah bah oui.
Cédric Emmons.
Ah ben non.
Ah ben non. Julien Beneteau.
Pas catastrophique.
Pas catastrophique. Sarah, tu es toute seule, mais ouais. Je sais que tu sais te défendre. Avant de débattre, on va retrouver notre
envoyé spécial
au Parc des Princes, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut les GG, salut à tous.
Alors les Parisiens étaient-ils tout simplement dégoûtés hier soir?
Oui, au coup de sifflet final, les joueurs parisiens apparaissent dépités. Luis Enrique demande aux supporters de chanter plus fort. L'entraîneur sent son groupe marqué par cet échec.
Les joueurs sont clairement touchés, ont mérité de gagner, aucun doute là-dessus. Mais si l'adversaire a 100% d'efficacité et que toi, tu ne joues pas comme à ton habitude, les choses tournent. C'est aussi simple que ça.
Face à Nice, le champion de France a tout essayé, mais il n'est plus invaincu en Ligue 1 et peut dire adieu au record de Nantes avec 32 matchs sans défaite en championnat. Mais Luis Enrique cherche des motifs d'espoir à 3 jours d'affronter Arsenal.
Par rapport à ce que j'ai vu, je signe tout de suite pour mardi à Londres et pour le match retour. Pas pour le résultat évidemment, mais j'ai vu une équipe qui a eu 30 occasions de marquer. Je ne suis pas du tout inquiet.
Pourtant, Paris a multiplié les signaux inquiétants avec 3 buts encaissés et l'absence de réaction du collectif. Le défenseur William Pacho veut vite tourner la page.
C'est un objectif que nous voulions, mais on ne l'a pas fait. C'est le football. On a eu beaucoup d'occasions aujourd'hui. Nous sommes plus unis que jamais. Nous sommes une grande équipe quand on joue ensemble. Maintenant, on va continuer et se préparer pour le match de mardi.
Le PSG a concédé sa plus lourde défaite en compétition officielle depuis le 1er octobre dernier contre Arsenal, un adversaire face auquel le club parisien devra montrer un tout autre visage mardi soir à Londres.
Merci beaucoup Arthur Perrault pour ces précisions. Première défaite pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le timing est-il catastrophique? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Évidemment, supporters parisiens, on vous attend au 32-16. J'ai un oui tout de même, le timing est catastrophique. Sarah Pitkowski,
bah, oui, vous venez d'entendre comme moi Luis Enrique qui a 3 jours d'un match en demi-finale de Ligue des Champions qui cherche des motifs d'espoir. Donc quand tu cherches des motifs d'espoir à 3 jours de ton match le plus important de la saison, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond. Donc oui, le timing, vous pouvez pas me dire que le timing, il vous inquiète pas. Il y aurait eu ce match-là, cette défaite-là, au milieu d'une série tout à fait correcte de la part du PSG. Mais tu viens de le dire, JC, ça fait 4 matchs qu'il ne gagne pas. Dembélé, ça fait 5 matchs qu'il ne met rien au fond. Donc il y a un moment, si t'as pas ton meilleur buteur qui a marqué 24 buts en 4 mois, qui a été mais extraordinaire, le match le plus important de la saison, enfin, évidemment que ce timing est extrêmement mauvais. De plus, Là, on va dire que ça fait 2 mois et demi, 3 mois que les adversaires potentiels du PSG sont en train d'analyser le PSG. Ils n'ont pas analysé les matchs du PSG du mois de novembre. On n'était même pas sûr qu'ils allaient se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc là, évidemment, tout est braqué sur eux et ils font des prestations plus que moyennes. Et hier, qu'est-ce qu'il fait, Luis Enrique ? Ben, il met son équipe type. Il met son équipe type qui tire 30 fois au but et il n'y a rien qui va dedans.
Enfin, c'est normal qu'il mette son équipe type.
Et tu as raison, c'est normal qu'il mette son équipe type. Mais avec le rendement de son équipe type à 3 mois, moi ça m'inquiète. Là, franchement, moi je ne suis plus du tout sereine. Je ne suis plus du tout sereine pour mardi soir.
Mais c'est un bon rappel.
C'est une piqûre de rappel si ce match avait été isolé.
C'est humain.
Mais
c'est-à-dire
on est
avoir un grand rendez-vous, si ils ont manqué d'engagement. Ils ont les occasions, ils les mettent pas.
Mais quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire contre Aston Villa, pardon, excusez-moi d'être un peu vulgaire, on a serré les fesses.
Pas toi, ça.
Non, mais on a eu quand même la trouille jusqu'au dernier moment. Donc, même le match face à Nantes, on a l'impression que leur pic de forme était il y a 5-6 semaines et que là, on est juste un tout petit peu de l'autre côté de la montagne. J'ai un peu peur qu'on soit de l'autre côté de la montagne.
Ok, Julien Benneteau. Voilà.
Effectivement, pour faire une comparaison à ce qui s'est passé cette année, j'ai l'impression que le PSG là, qui va arriver à Arsenal, c'est un peu comme le Liverpool qui s'est présenté devant le PSG à ce moment-là. C'est-à-dire que le Liverpool, en début de saison, il marchait sur l'eau et le PSG les a joués dans une phase où ils étaient un tout petit peu moins bien. Et peut-être que le PSG, par rapport à un ou deux mois, ils sont un peu moins bien et ça peut peut-être permettre à Arsenal d'y croire un peu plus. Mais pour revenir sur le timing, catastrophique non, parce que même si, comme tu l'as dit, on peut retourner les stats, c'est-à-dire qu'ils ont tiré 30 fois, donc ça veut dire qu'ils ont quand même produit du jeu.
Ils sont mis
en situation, et voilà, et donc ça rentre pas là, ça veut pas dire que dans 3 jours, mais ça rentrera pas.
Mais cette efficacité, c'était celle qu'on mettait.
Ah oui, ils étaient très cliniques.
C'était le point noir de cet hiver.
Du début de saison.
Et Luis Enrique nous disait, vous inquiétez pas. Alors, oui, on s'inquiétait. Mais il nous a donné raison pour le reste.
Ouais, il a eu raison. Parce qu'après, ouais.
Ok, Christophe, c'est sûr.
Non, moi je pense que il y a rien de grave. Il y a quand même des sujets où il va falloir qu'il resserre un peu les boulons. Mais quand tu as gagné le titre de champion de France depuis plusieurs semaines, que tu vas disputer une demi-finale de Ligue des Champions, qu'il y a la peur de la blessure parce que t'es en fin de saison et les organismes ont été très sollicités, est-ce que tu te livres à bloc alors que tu sais que 4 jours plus tard tu vas jouer le match le plus important de l'année? Je suis pas inquiet plus que ça. Évidemment, il y a deux petits sujets quand même qui m'inquiète, c'est Dembélé qui arrive plus en marin, en mettre un. Il a quand même eu une saison, lui, très montagne russe, c'est-à-dire qu'au début, il avait des occasions, mais il les mettait pas au fond. Ensuite, il a eu des occasions, il avait même pas besoin d'occasions pour les mettre au fond, tellement ça rentrait. Et puis là, il semble revenir un peu à sa première phase. Donc j'espère qu'il va vite retrouver la quatrième phase et qu'il va inscrire des buts, parce que sans lui, c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas
point d'interrogation, mais de toute façon, tu vas jouer contre Arsenal. Ouais. Donc tu pars pas la fleur au fusil en disant on va les taper. Ils ont été battus 3-1 par Arsenal.
Non, mais ils sont dans la gestion de la non blessure. Le problème physique, ça je peux l'entendre qu'ils sont pas à leur pic de forme depuis 4 matchs, ils sont au creux de la vague, ils sont en train de remonter. Peut-être qu'ils ont pris une grosse charge physique aussi et qu'il y a un rappel physiologique et que là ils arrivent pas à mettre, on va dire, un pied devant l'autre. Éric Dimico l'expliquait sur les antennes des RMC avant les grands rendez-vous. Est-ce que tu as envie de t'engager? Le rendez-vous de ta carrière, c'est celui-là. Alors le championnat, t'es déjà champion, le record, ils s'en foutent. Maintenant, c'est on verra au soir.
Ouais, ils s'en foutent pas tant que
justement,
ça.
Justement, je vous propose d'écouter tout de suite Vitinha au micro du diffuseur d'Azone. Écoutez après la rencontre. Alors, c'est peut-être que de la communication pour dire on est vraiment déçu, mais on sent qu'il y a quelque chose après cette défaite tout de même.
Bien sûr. On est dessous. On voulait cette record d'invincible, d'invincibilité. On voulait ça, mais c'était pas possible aujourd'hui. Malheureusement, focus sur Arsenal et le match qu'on a.
Non, mais c'est de la com pure et dure. Ils veulent se rassurer à travers ça. Et du moins, ils veulent dire que oui, ils sont passés à côté, qu'ils visaient l'invisibilité de Nantes, mais derrière, ils sont tous focus sur ce match en Ligue des Champions. La com de l'entraîneur, c'est la même chose. Du moins, ils sont en train de se rassurer parce que ils ont besoin d'arriver focus sur ce match de Ligue des Champions.
Limite, c'est peut-être mieux que ce record. Mais moi, je suis parce que comme ça
pour l'avoir vécu.
Ouais.
pour avoir fait partie en plus des équipes.
Ah oui, attendez, le stade toulousain, les copains.
C'était la même chose. Moi, j'ai fait stade. Honnêtement, j'ai fait partie des matchs où on te dit, bon, allez, t'as une chance de rentrer dans l'équipe qui va jouer les phases finales. On te fait jouer à Bourgoin, on te fait jouer. Mais t'en prenais 40, 50. Et derrière, les mecs qui jouaient, ils savaient par où t'étais passé. Donc, t'avais ce surplus de dire, on a laissé les copains à la cave. Maintenant, c'est à vous d'assumer. C'est à vous d'être bon et performant. Moi, je pense que, et je suis même limite content qu'ils aient perdu ce match-là. Ça va leur rappeler que si tu mets pas l'engagement, si tu mets pas ce qu'il faut, si t'es pas appliqué devant le but, si t'es pas concentré sur
Cédric, t'as raison. Mais je suis d'accord avec toi sur un match où t'es à 3 jours de ton rendez-vous de l'année et que tu mets un peu le pied sur le frein. Mais ça fait 4 semaines là
en fait.
Oui,
mais est-ce qu'ils ont fait un rappel physiologique, du moins physique, du moins où ils ont pris une grosse charge parce qu'une nouvelle saison démarre pour eux.
Bah vous savez quoi, on continue d'en parler dans les grandes gueules du sport. On a aussi des supporters parisiens qui nous appellent au 32-16. Donc restez bien avec nous. On parle encore quelques mots du Paris Saint-Germain qui a donc perdu face à Nice, le Nice de Christophe Cessieux, évidemment.
Ah oui, quand même.
On en parle dans quelques instants. Et puis beaucoup d'autres débats à venir. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Regina Del Diplo.
Les grandes gueules du sport.
Litiouve Itolissa.
Donnez-lui ses cachets, s'il vous plaît.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, quel organe, Christophe Cessieux, à 60 ans, évidemment. Il nous a offert cette magnifique chanson ce matin dès 9h. Lui, le Niçois, lui qui a battu, enfin pas lui, hein, parce que s'il était sur le terrain. Bref, Nice qui a battu le Paris Saint-Germain, on continue d'en parler. Première défaite pour le PSG en Ligue 1, le timing est-il catastrophique? Restez bien avec nous dans 10 minutes. Le zapping des GG, on s'en fout pas. Beaucoup de choses à vous dire et notamment une affaire en Italie avec Federica Pellegrini, une championne de natation, ex-championne de natation, qui s'en est pris à Yannick Sinner, encore et toujours. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bruit, on en parlera dans 10 minutes. Mais donc, restons un moment sur le Paris Saint-Germain. Le timing est-il catastrophique à quelques jours d'affronter Arsenal en demi-finale année de la Ligue des Champions? On se pose la question. Sofiane est avec nous au 32-16. Bonjour Sofiane.
Oui, bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien.
Ben oui, salut, nous Sofiane. Aussi, on espère que bonjour. Tu vas bien. Sois le bienvenu dans l'émission. Alors, est-ce que le timing est catastrophique?
Alors, oui et non, dans le sens où effectivement, c'est pas la meilleure des manières d'appréhender ce type de match avec une défaite quelques jours avant. Après, il faut essayer de nuancer un peu le propos, dans le sens où effectivement, c'est leur 43e match de la saison, 45e je crois, et les mecs ils sont un peu carbo. C'est vrai que là, cette saison, elle est assez éprouvante. Et pour vous donner un autre titre d'information, les 3 autres équipes qui jouent également les demi-finales ont également soit fait des matchs nuls, soit ont perdu. L'Inter de Milan, ce week-end, a également perdu contre le Milan C. L'Arsenal a perdu des points contre Crystal Palace, ça fait match nul. L'autre côté, Barcelone piétine également. Donc, on va dire que toutes les équipes s'essoufflent un peu. Et même ceux qui étaient cliniques devant le but, n'y arrivent plus forcément, ils mettent plus le pied devant l'autre. Donc, au final, c'est un peu général. Donc, c'est pour ça que oui, c'est inquiétant parce que ça arrive maintenant. Mais non, dans le sens où toutes les équipes à côté ont fait également soit piétiner match nul ou soit ont perdu également de leur côté.
On va dire, c'est vrai, tu as raison de le rappeler, c'est le lot d'une saison. Hein, personne ne va tomber sur le Paris Saint-Germain après une défaite en Ligue 1. Mais forcément, le timing, et c'est ça qui nous intéresse, c'est à quelques jours d'un match. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un peu de déconcentration, de démobilisation? Même si on a senti hier que les Parisiens étaient totalement concernés parce qu'ils ne voulaient pas perdre cette invincibilité. C'est anecdotique ou pas cette défaite, Julien?
Non, c'est pas anecdotique parce que contrairement à ce que dit Luis Enrique, on joue pas pour les records, on joue pour les trophées. C'est pas vrai. Il y a dans la semaine, il parlait du record du Grand Milan AC, des matchs de la série d'invincibilité, des matchs à l'extérieur qu'ils avaient battu ou égalisé la semaine dernière. Donc, et on entend Vitinha, il voulait rester invaincu, dépasser Nantes et en même temps gagner la Ligue des Champions. Il voulait les deux, c'est sûr. Donc en serrant ça, pour moi, c'est pas anecdotique parce que même s'il y a peut-être à 3 jours, quand tu joues un match, une forme de pas de démobilisation, mais t'es déjà tourné vers le match de mardi. Ils ont quand même joué à fond hier. Ils se sont procurés les occasions, ils les ont pas mises au fond. Le contenu est pas catastrophique, loin de là, mais ça veut bien dire qu'ils sont dans une phase un tout petit peu plus descendante qu'il y a 4 semaines.
Ok. Après Cédric Emmons.
Luis Enrique, tu veux qu'il dise quoi? Du moins, il est obligé de passer ça, de mettre ça sous le tapis.
Bien sûr.
Il est obligé. Après, mais quand t'es joueur, que t'es habité par les records et les trophées, forcément, t'as une com où tu dis oui, on aurait aimé. Mais l'objectif numéro un de Paris, c'est la Ligue des Champions.
Ok, mais vous, les sportifs, là, les records, c'était important ou
j'ai jamais été.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
De battre des records. record. Donc,
comment ça?
Si, t'en as un, non?
Oui, le record de finale perdue.
Alors ça, tu vois, tu pensais pas que...
Oui, mais la vraie question, c'est est-ce que tu pensais en rentrant sur le terrain, Adela? Eh ben voilà, donc ça veut bien dire que le psycho, la partie psy sur une rencontre ou qui est post un moment important, ben tu réfléchis quand
oui,
tu rentres.
Oui, c'est que ton engagement, il peut être un tout petit peu
limité.
Ouais, mais
5%, tu enlèves 5%
de chaque
joueur, et ben c'est un match non abouti, même si tu fais des kilomètres et tu cours, parce que c'est pas anormal, c'est normal.
Mais un PSG, même avec 5% de moins, prendre 3-1 face à Nice.
T'as 30 occasions, tu les mets pas.
Bah ouais. Mais et en revanche, de l'autre côté, ils ont 3 occasions, ils les mettent au fond. C'est ça le problème.
Mais on va voir si Luis Enrique, psychologiquement, il est très prompt.
Ils peuvent faire le même match mardi contre Arsenal et perdre 3-1. Avec le match retour à la maison, ou gagner 2-0 à l'étape
d'élimination. Vous êtes super optimiste, hein.
Bah, parce qu'ils sont très très forts. Honnêtement,
c'est toi le Marseillais qui dit que le PSG Dembélé est très très fort.
Ah, ils sont monstrueux. Doué, Dembélé.
Non, mais l'équipe de l'équipe, là, à la limite, pas parfaite.
Il est là, je sais pas comment dire. J'ai fait une Denis Charvet.
Mettez à sa place, c'est normal
pour ça. Franchement, c'est monstrueux. Le milieu de terrain, il est incroyable. Enrique, il a fait quelque chose de fantastique avec Donnarumma. Pour l'instant, en Ligue des Champions, il les sauve. Donc ils ont quand même beaucoup de paramètres qui font qu'ils peuvent aller au bout.
Il y a des certitudes et c'est pas cette défaite face à Nice qui va tout mettre en question, c'est ce que tu veux dire.
Moi je trouve que le timing est parfait pour le GC Nice. Je voulais vous le dire. Grâce à cette victoire décrochée quand même à Paris, là où tous les grands d'Europe, tous les grands du monde ont perdu, eh bien Nice se replace dans la course à la Ligue des Champions, revient à hauteur de Monaco. Est-ce que c'est pas ça le plus important aujourd'hui en championnat? Parce qu'il y a rien d'autre. Aujourd'hui, c'est les places pour la Ligue des Champions. Donc vous parlez beaucoup de l'Olympique de Marseille, mais je vous dis que Nice est à égalité de points avec Monaco et à un point de Marseille. Et je trouve ça magnifique que l'Union soit
sur la question. Est-ce que cette défaite relance l'intérêt du championnat pour la Ligue des Champions?
On n'est pas encore dans le on s'en fout, on s'en fout pas.
Je m'en fous pas.
Parce que effectivement, il y a un fossé entre le PSG et le reste des clubs de Ligue 1.
Ben comme il y a un fossé entre le Stade Toulousain et les autres clubs de top
4. Mais le rugby
se porte très bien au niveau des droits. Pourquoi moi je pense que le PSG est, parce que je supporte le PSG, mais pourquoi j'ai cette inquiétude? Parce qu'on a besoin que le PSG aille loin en Ligue des Champions. On a besoin pour que le foot français, que le PSG aille le plus loin possible. On les lit toutes les informations avec les problèmes des droits télé. Maintenant, il y a un problème avec les droits. Oui, mais non, parce que quand t'as un club qui gagne la Ligue des Champions, mais aller loin, c'est aujourd'hui, quand t'es en demi-finale, c'est évidemment d'aller la gagner. Aujourd'hui, que pour le foot français, pour la Ligue professionnelle de foot, avoir le PSG qui gagne la Ligue des Champions, c'est un poids supplémentaire pour aller renégocier des droits. Il y a des problèmes avec les droits aussi digitaux aujourd'hui. Le foot français, l'économie du foot français, elle est en danger. On a besoin d'un grand d'Europe, et s'il peut être français, le PSG, ça va aider tout le monde.
Sarah, t'as raison sur l'économie du sport. Sur l'économie du sport, t'as besoin.
Je crois pas que c'est intéressant pour d'autres clubs savoir que tu peux de temps en temps battre aussi le Paris Saint-Germain.
Non, il y a deux choses. Il y a l'économie.
T'aimerais qu'ils marquent comme ils l'ont fait pendant toute la saison.
Il y a l'économie et l'intérêt économique. Il y a deux questions. Il y a l'intérêt économique. Là, Sarah, je suis entièrement d'accord avec toi. T'as besoin d'un grand Europe pour vendre tes droits télé, pour les médias digitaux. T'as besoin d'avoir un club français champion d'Europe. C'est dans tous les sports pareil. Partout, t'as besoin d'avoir un représentant dans toutes les instances, et si tu gagnes, c'est encore mieux. Mais après, pour l'intérêt du championnat, de montrer que le PSG peut perdre un match, ça relance le championnat.
Non, mais elle aimerait bien qu'on joue, la Ligue 1 à la PlayStation,
Ça n'intéresse que les supporters de chaque club à 5 journées de la fin, c'est tout. Voilà, c'est évidemment que la place de Ligue des Champions est importante, mais voyez un peu plus large, un peu plus global.
De quoi ?
Vous êtes là, t'es supporter niçois, donc tu vois que Nice.
Je m'en fiche complètement, mais je m'en fiche encore plus des performances du PSG en Ligue des Champions. Donc, tu vois,
très bien. Alors, on va en parler avec ceux que ça intéresse, les copains. Juste vous rappeler, tu as raison quand même, Christophe, de le dire. Marseille, 55 points. Monaco, 54 points. Nice, 54 points. Lille, 53 points. Et Lyon, 51 points avec Strasbourg. Bref, ça va être passionnant. Il reste 4 journées, enfin plus que 3, évidemment, pour les Niçois, vous l'aurez compris. Sofiane, un dernier mot avec toi qui nous a appelé au 32-16. Ce match face à Arsenal, est-ce que t'as pas l'impression de voir les mêmes mots du Paris Saint-Germain qu'en début de saison, une équipe parisienne qui domine, mais qui marque moins, qui marque peu.
Ouais, effectivement, après... Tout à fait, avec le PSG, on va dire la principale crainte, c'est toujours cette efficacité devant le but où voilà, on est un peu tous fixés aux deux jambes de Dembélé, à savoir si voilà ses dribbles vont aller au bout et qu'il va la mettre au fond. Mais voilà, ça c'est un problème parisien qui date depuis le début de saison. Bon, même si là il a fait 4 mois extraordinaires et qu'il marchait sur l'eau. Donc là, on va dire que la clé du PSG va se trouver dans l'efficacité devant le but, parce que les occasions, ils vont se les créer. Ils courent énormément. Je crois que c'est l'une des équipes qui court le plus en Ligue des Champions. Donc du coup, les efforts, ils vont les faire. Et ça, pour le coup, mouiller le maillot.
Il n'y a pas de doute.
Maintenant,
c'est
juste voilà, l'efficacité devant le but. S'ils marquent, pour le coup, ça devrait le faire et ça devrait aller, parce qu'ils sont vraiment très forts cette saison. Je rejoins un peu les avis de votre équipe. Mais voilà, s'ils marquent pas, bon bah comme on dit, on voit un match de foot, hein, t'as beau dominer toute la journée, si derrière tu marques pas, bon bah tu gagnes pas.
Quoi. On peut vous prêter Morgan Sanson si vous voulez.
Sofiane, tu préfères.
J'avais pas fait depuis un an. Hein.
Sofiane, ouais, tu préfères ça. Qu'il loupe hier soir face à Nice ou qu'il loupe
évidemment.
Bah voilà, donc laisse-le louper où il doit louper et laisse-le réussir où il doit réussir. Après, il met les buts au bon moment, c'est comme un buteur au rugby.
J'ai des copains qui sont tellement supporters du PSG qui étaient très contents hier. Ils disent ouais, Nice marque des points, ça veut dire que Marseille va être dans dur que Marseille n'a pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Oh là
là. C'est le contre-contre là.
Merci beaucoup Sofiane d'avoir composé le 32-16. Évidemment, tout au long du week-end, on reparlera du Paris Saint-Germain dans nos différentes éditions. Mardi soir, c'est donc cette rencontre demi-finale aller de la Ligue des Champions. Arsenal PSG, ce sera à suivre en direct, en intégralité sur RMC. Pas besoin d'écharpe, oui.
Non, je la verrais bien avec une petite écharpe du PSG.
Allez, Niçois en Ligue des Champions la saison prochaine, t'y crois?
Ouais.
Peut-être que ça veut dire que le propriétaire va venir voir les matchs.
Si on pouvait ne paniquer.
Non. Et il en dit quoi d'ailleurs, le propriétaire? Parce que
oui, bah alors justement,
on a fait une émission où il a balancé.
Ah oui, il s'emmerde avec les matchs de l'OGC Nice. Mais pas, il s'emmerde pas avec les matchs de Manchester United en tout cas. Bonjour monsieur. Monsieur Salio.
Très bien, merci Eric. On est encore en direct. On arrive dans quelques instants. On dira bonjour après, s'il te plaît.
Tu connais la radio. De quand, en fait.
On se retrouve dans quelques instants, les copains, pour justement vous parler de tennis avec cette affaire autour de Yannick Sinner. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h41 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Cédric Aimant, Julien Beneteau. À partir de 10h, on ouvre le dossier sur le Stade de France. Est-ce qu'il est indispensable aux Bleus, à nos équipes de France de foot et de rugby? On se posera la question et on vous donnera évidemment toutes les dernières informations dans une heure à 10h45. Mais GG, c'est à vous de jouer, c'est à vous de nous proposer votre débat. Vous avez quelques secondes pour nous le vendre, même si votre salade n'est pas fraîche, mais GG, à vous de nous dévoiler un débat. Christophe Cessieux, tu veux parler de quoi?
En parlant de salade.
Je veux parler d'un garçon qui a mon âge et qui est assez inspirant. Il s'appelle Michel Desjoyaux. Je ne sais pas si vous, qui êtes jeune, avez connu ses exploits. Évidemment, Michel Desjoyaux, c'est l'un des plus grands navigateurs français. Après quelques mois de retraite, il a décidé à 60 balais de reprendre la compétition, de construire un bateau, un classe 40, et il va traverser l'Atlantique. Alors c'est une course en duo, mais je trouve qu'il est très inspirant pour tous les mecs de mon âge. La Transat, l'ancienne Jacques Vabre, entre Le Havre et la Martinique.
Absolument.
Ouais, tu seras un petit peu toi aussi?
Non, mais je connais la voile.
Mais
j'ai pas 60 ans.
Michel, ça donne évidemment à l'envie de Christophe de continuer encore de nombreuses années dans cette émission. Bravo mon cher.
Voilà,
Christophe.
Moi je vais y aller à la planche, en planche à voile ou en kitesurf peut-être.
Voilà, fais attention le dos.
Non, c'est bon.
Julien Beneteau, c'est quoi ton débat?
Moi, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière entre Saint-Etienne et Lyon, mais pas le problème d'arbitrage. Ah. Mais ce qui se passait en tribune. Et
alors, quand on est de Bourg-en-Bresse, on est plutôt lyonnais ou stéphanois?
Attendez, c'est pas le débat, on avance, on accélère.
Je suis perdu maintenant. et c'est l'éternelle question sur les sanctions, soit collectives, et que le club en pâtit et les joueurs par ricochet, c'est-à-dire retrait de points, huis clos.
Par rapport à la pièce lancée sur l'arbitre.
Exactement. Ou alors de la sanction individuelle. Par rapport à la personne qui s'est mal comportée en tribune. Et je voulais avoir votre avis et débattre avec vous. Et moi, j'ai ma petite idée là-dessus.
Ok, sanction collective ou sanction individuelle pour Saint-Etienne, on l'a bien compris, après ce derby. Sarah, tu nous proposes
quoi? Moi, je vais vous parler tennis.
Tiens.
Ouais, exactement. Roland Garros arrive, mais il va y avoir des...
Il va y avoir des cérémonies cette année parce qu'on fête des anniversaires. Alors il y aura celui de Marie Pierce, il y aura la fin de carrière de Richard Gasquet, mais il y a surtout Raphaël Nadal qui l'année dernière avait refusé tout hommage, ne sachant pas s'il allait revenir ou pas. La Fédération française de tennis a annoncé qu'il y aurait cérémonie pour Raphaël Nadal. Il a déjà sa statue dans le stade, mais la question que je vous pose, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va être à son nom autre dans le stade. Faut-il rebaptiser le cours Philippe Chatrier en cours Nadal? Faut-il lui offrir une tribune à son nom? En tout cas, que doit-on faire pour Nadal à Roland-Garros?
Rebaptiser le stade Raphaël Nadal, tout simplement.
Philippe Chatrier,
Roland-Garros,
attention, il y a Raphaël Nadal,
Raphaël Nadal. On en reparle, évidemment.
C'est vachement intéressant.
Si vous voulez voter pour Sarah,
je vais voter pour Sarah.
Des grandes gueules du sport. Cédric Clémence.
Les simulations sont-elles réservées au football ou aux footballeurs? On a vu Nolan Le Garec faire une simulation, il s'est excusé auprès du corps arbitral. Ce que l'angle que je veux prendre, c'est toutes ces simulations qui peuvent arriver au football énervent le public et créent des débordements parce qu'on a des mecs frustrés. Au rugby, il ne faut pas qu'on en arrive là, on a un public éduqué. Donc je vous demande de ne pas voter contre Julien, ni Sarah, ni Christophe, mais surtout de voter pour moi pour avoir un vrai débat.
Oh, quelle politique incroyable.
J'aime bien parce que c'est très éducatif.
Est-ce que les rugbymans simulent? C'est ça la question.
À chaque fois qu'on a voulu faire des débats intelligents et contre-attaques, on a pris des revers.
Ah, c'est pour ça que j'ai jamais gagné une contre-attaque.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est-à-dire que j'ai gagné la dernière fois, j'avais un débat.
Vous avez les quatre débats, chers auditeurs, vous pouvez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Federica Pellegrini qui s'en prend à Yannick Sinner et qui se fait tancer par la presse italienne. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Cédric.
Je ne m'en fous pas.
Ok, ça va.
Je sais pas quoi en penser.
Ok, mais ça, t'as envie d'en parler?
Oui, j'ai surtout envie d'écouter.
Ok.
Ouais, je vais écouter. Il y a Eric Salio qui est venu en parler. Donc,
Eric Salio, bonjour.
Ah, il est là. Bonjour à tous.
Là, c'est bon, on est en direct.
Hein, j'ai déjà voté contre Sarah, là. Je déteste son débat.
Allez, très bien. Tu resteras avec nous, évidemment, si on parle de Raphaël Nadal. Alors, Federica Pellegrini, l'ancienne star de la natation italienne, se retrouve en pleine tempête. Sa faute, avoir dit du mal de son compatriote, Yannick Sinner, numéro 1 mondial de tennis, qui purge, vous le savez actuellement, une suspension de 3 mois pour dopage, une sanction qui a beaucoup fait parler. Alors, Federica Pellegrini, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est à contre-courant. Évidemment en Italie. Alors, pourquoi le cas Sinner doit être différent? Il n'y a pas eu de suspension immédiate. Je ne dis pas qu'il y en aurait dû en avoir une, mais il a été traité de manière différente par rapport à 99% des cas d'autres athlètes qui ont payé une négligence pour dopage. Il est vrai que si mon physiothérapeute boit une bière et rentre dans quelqu'un, ce n'est pas de ma faute, mais cela devient ma responsabilité si mon physiothérapeute utilise une pommade sur moi et que je suis testé positif ensuite. Ça vaut pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas pour Sinner. Et c'est étrange. Eric Salio, tu es avec nous ce matin, parce que ces mots de la championne olympique du 200 mètres, ont beaucoup fait parler en Italie. Elle a pris la marée de la part des fans de Sinner, évidemment, mais aussi de la presse transalpine.
Elle a coulé, mais il faut se rendre compte du bonheur qu'a apporté Sinner depuis un an et demi au tennis italien et plus généralement au sport italien. 3 titres du Grand Chelem, 2 Coupes Davis, une place de numéro mondial. Le mec, il est intouchable. On ne peut pas toucher à Yannick Sinner. Julien.
Pellegrini, à l'époque, quand elle est championne olympique, elle est intouchable. C'est la diva en Italie.
Le tennis,
on l'appelle la divine, d'ailleurs.
Le tennis, c'est le deuxième sport le plus populaire en Italie. Tu connais l'ambiance, le Foro Italico, c'est fantastique.
Ça veut dire que s'il est intouchable, il peut faire ce qu'il veut.
Et ben voilà. Et je vais prendre un exemple. Zizou, intouchable. Oui. Beaucoup de boules. On lui a pardonné. Et ben là, j'ai l'impression qu'on va, la presse italienne lui a déjà pardonné sa bêtise, entre guillemets, parce que bon, on pense qu'on veut de son cas, mais effectivement, il y a une négligence quelque part parce qu'il est responsable de son staff. Mais je pense qu'on lui a tout pardonné. En plus, il a une image. Alors, il y en a qui vont dire, Christophe va dire, il a une image lisse. Mmh. Il a une excellente image en Italie parce que il prône des valeurs d'humilité, de travail. Quand il se balade en civil, il a un gilet, Edouard Baird dirait qu'il a un gilet qui ressemble à rien. Mais voilà, c'est Yannick Sinner. Il est intouchable. Donc, il est dans une caste. Et donc, Pellegrini, elle a pris la marée parce qu'on ne touche pas à Yannick Sinner.
Non, mais permets-moi, quand on compare Zidane à du dopage, du moins, Zidane, c'est un fait de jeu. Même si c'est fait brancher, ça nous est tous arrivé.
Non, mais c'est sur le côté, on ne touche pas à l'idole, quoi.
Voilà. Alors, il y a eu un cas précédent en France, de dopage et de star du sport français, c'était Richard Virenque en 1998, l'affaire Festina, où la presse française a bien fait son boulot. comme ne le fait pas la presse italienne. La presse italienne a pris fait et cause pour Sinner en disant
Au départ
de l'affaire Virenc, tu ne sais pas s'il est vraiment dopé, si ce qui s'est passé. Et là, je te parle des semaines qui ont suivi, donc il est exclu du tour avec toute la formation Festina. Les journalistes français continuent de faire le boulot, enquêtent un peu pour savoir ce qui s'est passé, et petit à petit, on arrive à savoir ce qui s'est passé. Eh bien, je te certifie que les supporters de Virenc sur le bord des routes étaient hyper remontés contre la presse française et nous jetaient des cailloux sur les bagnoles. On a été obligé de destiquer les voitures à l'époque, nous cracher dessus parce qu'on touchait à l'idole. Mais alors que la... Attends, tiens, 5 minutes. Que l'opinion publique, Sarah, que l'opinion publique prenne fait et cause pour un joueur ou un coureur national. C'est son boulot, mais les journalistes doivent faire leur boulot de leur côté. Et là, j'ai l'impression que c'est on juge Sinner à décharge en Italie.
Tu peux pas parler.
On verra ça demain.
Ça a été annoncé en juin l'année dernière. Ok, ça va bientôt faire un an. Qui te dit que les journalistes, on n'a pas lu toute la presse italienne qui est allée peut-être aussi enquêter et qui a aussi regardé ce qui se passait du côté de Sinner? Non, là, on n'en sait rien.
Tout ce que dit la presse, ça c'est vrai, mais tout ce que dit la presse italienne qui est tombée sur Federica Pellegrini, c'est ce qu'elle dit est absurde. Il ne s'est pas dopé. D'ailleurs, il y a un ancien joueur aussi, Paolo Bertolucci, qui a déclaré: Pellegrini s'est trompé, elle a dit des choses insensées et absurdes, et le fait qu'elle vienne de quelqu'un qui fait partie du CIO est doublement grave.
Ils ne sont pas contre Sinner, ils sont contre Pellegrini qui, au nom de la nation, ne doit pas faire ces déclarations-là.
Au nom de la nation, le patriotisme est très important, plus que chez nous.
Cédric Evance.
Donc, Sinner, c'est une chance pour lui d'avoir Pellegrini qui a fait ces déclarations-là. Tout le monde est en train de parler de Pellegrini au nom de la nation, ne supporte pas l'idole du tennis. Et lui, il va passer tranquillement et on va peut-être oublier cette histoire et ainsi de suite.
Ah, mais il sera accueilli comme un héros.
Pellegrini est en train de servir
Sinner. Il sera porté en triomphe sur le truc de Jules César, évidemment.
Bon, sachez que nous avons et on vous prépare une émission spéciale dopage demain avec l'Agence mondiale antidopage, l'AMA.
Et on parle du cas Sinner.
Exactement, qui prend très rarement la parole et qui est venu s'exprimer, qui vient s'exprimer demain dans les grandes gueules du sport sur RMC et qui va donc parler du cas Sinner parce que c'est évidemment très important et c'est l'un des cas les plus chauds. Merci beaucoup Eric Salio, tu restes avec nous parce qu'on va encore beaucoup parler de tennis dans cette émission. Une deuxième information à vous donner dans le zapping des grandes gueules du sport: la colère et les larmes de Clarisse Agbenienou. On s'en fout pas. Je vous vois embêté
non,
là.
Je m'en fous pas du tout, sauf que effectivement les règles du judo, c'est pas facile à comprendre. Mais je m'en fous pas du tout, non.
Bennett.
Commence à me fatiguer.
Ok. Cédric avance.
Je sais pas si on a le droit de le dire parce que c'est Clarisse, mais voilà.
Mais t'as le droit, oui.
Je m'en fous.
Ok, il s'en fout.
Je m'en fous.
Ok. Alors, une défaite très difficile à encaissée pour Clarisse Agbenienou, opposée ce jeudi à la Tchèque Zakova en finale des championnats d'Europe de judo. La Française a été disqualifiée pour avoir saisi le cou de son adversaire, un mouvement jugé dangereux. On va retrouver. Là, c'est pour la.
Juste un tout petit mot. En Italie, ça aurait déchaîné les foules. C'est-à-dire que les cinq consultants et journalistes autour de la table auraient dit c'est un scandale arbitral et tout ça. Mais nous en France, voyez.
Ben justement, on va retrouver notre envoyé spécial au Monténégro, c'est Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Alors justement, est-ce que la Française crie au scandale?
Alors ce qui s'est passé, elle était en train de ventiler vraiment un très bon début de finale de Clarisse Agbenienou, en train de ventiler la Tchèque Renata Zakova, et au sol elle vient entamer une saisie qu'elle adore, on appelle ça le writer, un bras tête, un bras qui passe à côté des côtes et l'autre côté opposé entre l'épaule et la tête. Elle vient saisir, normalement elle part sur l'arrière pour retourner son adversaire, mais pas là. Zakova s'est relevée, Clarisse Agbenienou n'a pas lâché cette saisie qui est extrêmement forte, et l'action s'est continuée debout comme c'est permis par le règlement depuis cette saison. L'an passé on arrêtait une action qui partait du sol et qui remontait en station debout, et Clarisse Agbenienou a poussé son adversaire qui est tombé à plat ventre. Utilisation de la vidéo, Zakova, qui on a parlé, savait qu'il y avait une action illicite. Clarisse Agbenienou disqualifiée directement, en larmes lorsqu'on l'a retrouvée à la descente du podium. Clarisse Agbenienou:
j'accepte pas, voilà, c'est comme ça, c'est le judo, les règles sont les règles, mais j'accepte pas quand je suis dans une forme comme ça, j'accepte pas quand il y a un travail qui est fait derrière et que j'arrive à le mettre en application, j'accepte pas et que j'accepterai pas. Après maintenant c'est comme ça, j'ai pas le choix, je suis que vice-championne d'Europe, Je suis que 5 fois championne d'Europe et voilà, hein, ce sera à moi de retravailler derrière, mais j'accepte pas. Et franchement, quand je t'en ai dans une forme comme ça, de pas gagner, et ben ça fait chier. Donc ça me fait chier.
Une application à la lettre du règlement. Clarisse Agbenenou en a terminé avec sa saison. Il y a demain l'épreuve par équipe. Elle part dès mardi aux États-Unis donner des conférences. Et ensuite, elle espère donner naissance à un enfant dans les mois qui viennent. Puis, ce sera la préparation pour Los Angeles 2028, le dernier défi de sa vie. Mais je l'ai trouvé extrêmement touché, peut-être plus touché que sa médaille de bronze à Paris aux Jeux Olympiques l'an passé.
Ça, c'est vrai. Ce n'est que, on a envie de dire, un championnat d'Europe par rapport à tout ce qu'elle a pu gagner, qu'elle a déjà remporté 5 fois, mais on la sent. Ça te fait réagir, toi, Julien?
En fait, je comprends sa déception, entre guillemets, mais son argumentaire ne me va pas. Morgane, tu confirmes ce qu'elle a fait? Bon, ben, si elle a disqualifié, c'est que c'est pas dans les règles. Elle a...
Oui.
Bon. Eh ben, t'as beau être préparé, tu fais un truc qui est hors règle, t'as pas à ne pas l'accepter, quel que soit ton état de forme. Tu t'entraînes, tu fais les sacrifices comme tout le monde, ben, y a des règles dans les sports et tu fais un geste qui est illicite, ben, t'es disqualifié et puis voilà, c'est dur, c'est compliqué. C'est comme au tennis quand tu jettes une balle, ça touche un juge de ligne. T'as pas de chance, tu fais rien de mal, tu blesses pas le judéine, c'est la règle, t'es disqualifié, tu t'es entraîné, t'as fait les sacrifices, t'es dehors. Bon, bah voilà.
Avoir la présence d'esprit de lâcher ce contrôle quand on va debout, c'est peut-être ce qui était le plus difficile, se dire attention, là, il va peut-être se passer quelque chose de dangereux, et à mon avis, il y a aussi une erreur de l'arbitrage. On doit se dire, ah, peut-être que la situation peut devenir dangereuse, et là, l'arbitre aurait peut-être dû dire, Maté, c'est la pause de l'arbitre, mais il n'a pas été assez rapide. Donc, à mon avis, il y a des torts un peu partagés dans cette histoire, mais c'est l'application de la règle. Clarisse Agbenenou est en médaille d'argent.
Voilà, une médaille d'argent, ça fait encore une médaille pour la délégation tricolore. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, Morgane?
4 Françaises engagées, pas de garçons en moins de 100 kilos, en plus de 100 kilos. Elles sont 2 en moins de 78 kilos. Audrey de Cheméo, qui peut devenir la recordman de titre européen avec le 6e. Avec elle, Limougeot de Fanny Estelle Posvit. Et en plus de 78 kilos, 2 très belles cartouches. Léa Fontaine, vainqueur du tournoi de Paris cette année. Et Romane Dico, de retour après des Jeux Olympiques qui l'ont fait beaucoup pleurer. Elle chasse une 5e couronne européenne. Elle n'a jamais perdu en championnat d'Europe depuis qu'elle en dispute en cadette. La série est à poursuivre.
Bon, parfait. Merci beaucoup, Morgane Maury. On te suit évidemment toute la journée pour ces championnats d'Europe de judo. Et puis tu reviendras demain dans l'émission pour nous dire comment ça se passe. On veut des larmes, mais de joie, hein, pas des larmes d'athlètes français dégoûtés, évidemment. Julien sera là aussi pour commenter aussi les réactions des judokas demain.
Ok, très bien.
À demain.
On t'attend, hein.
Ouais, je serai là. Hein,
parfait. Merci beaucoup, Morgane Maury. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Déjà, vous pouvez aller voter sur le compte X pour votre débat préféré. Ça, c'est à 10h45. Vous l'avez teasé il y a quelques instants. Et puis, nous allons ouvrir le dossier, le débat sur le Stade de France qui est actuellement en procédure de concession par l'État. Est-ce que ce Stade de France est indispensable aux Bleus? Est-ce que c'est la maison des Bleus? Est-ce qu'il faut absolument rester au Stade de France? Oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules du Sport.